Bonjour à chacun et à chacune. En effet, un pasteur d'heureux acheté, un pasteur d'heureux offert ce matin, promotion. C'est une première pour nous de partager la chair un même matin au même endroit. Mais quoi de plus indiqué que la Pentecôte pour prêcher à deux voix? On a trouvé que c'était l'occasion parfaite pour le faire. Benjamin va commencer, je vais continuer. Des messages différents, mais validés par nous deux. Vous allez peut-être être surpris de la manière de faire, qui va être très différente l'un de l'autre, mais sachez qu'on pense cette prédication comme un tout. Ce qui nous tient à cœur, une des choses qui nous tient à cœur, c'est à quel point Dieu a créé des créatures complexes. Nous sommes des êtres physiques, des êtres relationnels, des êtres émotionnels, des êtres spirituels, et j'en oublie, et on espère que ce message qui nous vient de Dieu, en tout cas on l'espère, pourra nourrir tous les aspects de nos êtres dans qui nous sommes et dans le corps du Christ que nous formons. Merci.
À moi de vous saluer. Quelle joie en tout cas d'être là avec vous, dans cette église, dans cette communauté et pour la Pentecôte. Événement si fort, si beau, si impressionnant. Ne vous inquiétez pas, elle revient. Elle va bien prêcher après. Et pour cela, je vous invite à ce qu'on replonge dans cet événement en lisant Acte 2, du verset 1 à 13. Alors, je vais le lire, moi, dans la version Summer. Acte 2, 1 à 13. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout d'un coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allaient se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de chez tous les peuples du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et se disaient « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendons s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut bien vouloir dire ?» Mais d'autres tournaient la chose en ridicule « C'est le vin doux, disaient-ils, ils ont trop bu. » J'arrête ma lecture ici. La Pentecôte. Contrairement à ce qu'on peut croire ou penser encore aujourd'hui, la Pentecôte, c'est bel et bien, de base, une fête juive. C'est une fête juive, tout comme Pâques est une fête juive. Et Pentecôte veut dire 50 jours après Pâques. Et donc, c'est pour ça que quand vous voyez Pâques, souvent ça peut être marqué avec un S, parce qu'on parle des deux Pâques. La Pâque juive et la Pâque chrétienne. Et de même, la Pentecôte, là, c'est deux événements. Enfin, pour nous, c'est deux événements qui commémorent deux événements, avec un, bien sûr, plus important, qui prend le dessus sur l'autre. Et savez-vous que cette fête juive, c'est pour ça qu'ils étaient tous rassemblés à Jérusalem, pouvait s'appeler la fête des prémices ou bien la fête des moissons. On trouve ça en Nombre 28 ou en Exode 23. Et on pouvait associer cette fête avec le souvenir du don de la loi au Sinaï, aux 12 tribus d'Israël rassemblées, formant le peuple de Dieu avec le médiateur Moïse. Célébration donc de l'alliance de Dieu avec son peuple. Événement donc essentiel pour les Juifs, important. En acte 2 que nous venons de lire, il ne nous est pas dit exactement qui il y avait rassemblé ici, dans cette pièce. Mais si on prend le chapitre précédent, on peut deviner, essayer de comprendre qui s'y trouvait. Et on peut lire en acte 1, versets 13 à 14, il nous est dit qu'à Jérusalem, ils étaient ensemble, et il y avait Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélé, Jude, avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils étaient un peu plus que les apôtres, ils étaient avec plusieurs disciples. Ils sont les nouveaux représentants des 12 tribus d'Israël, où ils vont recevoir un nouveau don. Non plus la loi, mais un don plus grand, qui vient accomplir la loi, qui vient les aider à accomplir la loi. L'Esprit, donné non plus par Moïse, mais par un nouveau Moïse, un nouveau médiateur, Jésus. Mais là, si vous suiviez bien, vous pouvez vous dire peut-être, mais en fait, il n'était que 11. Dans les lectures que je viens de dire, je n'ai parlé que des 11 apôtres, et je n'ai pas parlé, enfin, et de quelques autres disciples, mais il en manque un. Dieu fait bien les choses. Juste avant la Pentecôte, Matthias va être choisi, va être tiré au sort. Alors, je ne vais pas prêcher sur cet événement particulier, tiré au sort. Est-ce qu'on peut le faire, nous aussi, maintenant, prendre des décisions en tirant au sort? Non. Non, il faut prendre le contexte. Jésus vient de partir, l'Esprit n'est pas encore descendu, et ils sont là en mode... On ne peut pas choisir nous-mêmes un autre apôtre. C'est Jésus qui choisit les autres apôtres. Comment faire? L'Esprit n'est pas là pour les guider ou autre. Eh bien, ils vont faire quelque chose de particulier, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le reproduire. Ils vont tirer au sort. Parce qu'après, il y a acte 2, donc il y a l'Esprit. Et après, c'est dans la prière, etc. Je m'arrête là, sinon je vais faire une deuxième prédication sur ce point-là. Mais en tout cas, pour comprendre acte 2... Et même l'entièreté du livre des actes, il faut comprendre acte 1. Dans acte 1, à ce moment-là, Jésus monte au ciel, c'est l'ascension. Et il va renouveler là, qu'il a déjà annoncé à plusieurs reprises à ses disciples, à ses apôtres, je vais vous envoyer une aide. Je vais vous envoyer quelqu'un, quelque chose, une puissance qui viendra vous pousser. Un outil, une force, une puissance qui permettra aux disciples de rendre témoignage. Effectivement, à la fin des évangiles, on voit des disciples apeurés, qui s'enferment, qui n'arrivent à rien, qui sont tétanisés. Et ça va tout changer, à acte 2. Et il les envoie, on retrouve ça dans acte 1, il les envoie avec une mission en 4 étapes. Commençant à Jérusalem, puis à la Judée, puis à la Samarie, et ensuite auprès de toutes les nations. Il faut bien comprendre cela pour comprendre tout l'acte, tout le livre des actes, parce que c'est ce qui va se dérouler. Et tout commence à acte 2. Les disciples, juste avant acte 2, sont dans le flou, comme beaucoup de fois où on le lit dans les évangiles, ils ne comprennent pas. Ils ne saisissent pas l'enseignement ou tout l'enseignement de Jésus et surtout certaines paroles, quand c'était selon sa mort, ils ne comprenaient pas. Et là, selon l'Esprit aussi, ils ne comprennent pas. Ils sont dans le flou et ils restent bloqués dans l'ancienne alliance, cette ancienne alliance où le salut était que pour les Juifs, que pour ce peuple élu. « Et en réalité, on l'a lu, il y a eu plein d'autres promesses dans l'Ancienne Alliance d'une ouverture, de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'exceptionnel qui va venir et qui va toucher toutes les nations. On l'a vu, on est plein de nations différentes. L'Église aujourd'hui est plein de nations différentes. Et c'est grâce à un événement. Christ à la croix, bien sûr, mais la Pentecôte, cette ouverture. Et quand on relisait ce passage pour la préparation de la prédication, on a été interpellé par cette notion de fête de la moisson. Fête de la moisson, que représente aussi donc la Pentecôte juive. Et ça nous a fait tout de suite penser à la parole de Jésus lorsqu'il a dit « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui apporte la moisson d'envoyer ses ouvriers pour la rentrée. » Et on a tout de suite fait ce lien. À ce moment-là, effectivement, Dieu envoie. Dieu a envoyé ses ouvriers. Ils sont peu pour l'instant. Ils sont 12, plus quelques femmes disciples, plus les frères de Jésus, plus Marie. Mais ils vont se propager au fur et à mesure, tout au long des actes, et que ça continue encore aujourd'hui, les nations. Nous sommes encore dans cet aspect des nations, cette mission d'aller dans toutes les nations. Conformément à la promesse donc de Jésus, l'Esprit descend sur les disciples rassemblés. Le don de l'Esprit répond au don de la loi que l'on célébrait aussi à la Pentecôte. Et je ne sais pas si vous avez cet écho, cet élément qu'on retrouve en Nombre chapitre 11, verset 29, où Moïse va faire une demande à l'Éternel. Et il dit que l'Éternel accorde l'Esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes. Ce n'était pas encore arrivé jusqu'à la Pentecôte. Et ça va aller plus loin que la promesse et la demande de Moïse, parce que ce sera tous les peuples qui pourront louer, qui pourront prophétiser. Il y a en même temps ici un tri qui se fait, plus strict que l'ancienne alliance, mais dans le même temps une grande ouverture. Ce n'est plus basé sur des marques d'appartenance extérieure, par une ethnie, par quelque chose de physique, que l'on appartient au peuple de Dieu, mais par la vie intérieure, par le choix, par la prise de décision. C'est par la foi et non plus par la loi qui ouvre aux nations l'appartenance, la possibilité d'appartenir au peuple de Dieu. C'est quelque chose d'assez fou, de magnifique. Et par le parler en langue des nations non juives, l'Éternel annonce qu'il réunit ce qu'il avait désuni à Babel. À Babel, ils parlaient tous la même langue. Il les a désunis parce qu'ils n'allaient pas dans le bon sens. Ils voulaient devenir des dieux, remplacer Dieu. Il les a fait différents, en parlant des langues différentes. Mais là, il les unit pour former le peuple de Dieu, avec cette diversité, en prenant compte de cette diversité, qui n'est pas donc une mauvaise chose. Au contraire, c'est quelque chose de beau, de voulu par Dieu. Nos différences culturelles, toutes nos différences, physiques ou autres, Dieu les voulait. Dieu les veut et aime cette diversité. Dieu aime l'Église qu'il voit. Et je vais laisser la place maintenant à Lula pour la suite, mais elle va nous réveiller sur cet événement magnifique.
Je ne sais pas si vous connaissez cette émission, alors je vais vous demander de lever la main si vous la connaissez, mais est-ce que vous connaissez l'émission « Avez-vous déjà vu ?» Quelques personnes, ouais, au moins quelques personnes. « Avez-vous déjà vu ?» est une série télévisée d'animation française de format shortcom, c'est-à-dire que chaque épisode fait 45 secondes et il y a 150 capsules. Créé et réalisé par Pierre-Alain Bloch, produit par la société chez WAM, animé par le studio Normal, avec deux A, et dont la narration est assurée par Alain Chabat. Elle est diffusée du 30 janvier au 15 septembre 2006 sur M6. Alors, je vous avoue, moi j'étais encore enfant quand je les regardais. J'avais l'impression que ça a été là de toute éternité sur M6. Apparemment, ça a été que quelques mois. C'était un format très court, très sympa, souvent familial. Toute la famille se réunissait devant la télé. Et le concept est assez simple. Avez-vous déjà vu quelque chose de totalement loufoque? On voit les images. Et à la fin, c'était maintenant, oui. Il me semble que c'était avant la météo, quelque chose comme ça, juste avant les émissions de la suite. C'était un moment très sympa, qui durait moins d'une minute. On trouvait ça vraiment chouette. Et Alain Chabat, c'est vrai qu'il est drôle. Et on continuait notre vie. Il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais moi, je connais pas. Donc, je vais vous faire connaître, on va en regarder un. Comme ça, vous aurez vu quelque chose de plus aujourd'hui.
Avez-vous déjà vu? Un boys band de poussins.
Ça vous plaît? Donc, 150 épisodes dans l'histoire des Avez-vous déjà vu? On peut y trouver, je ne vais pas vous citer les 150, mais des cow-boys pharmaciens, l'homme invisible qui avale de travers, des huîtres intergalactiques, un chanteur de berceuse heavy metal ou encore un yaourt qui chante des airs d'opéra. Je vous laisserai découvrir tout ça sur YouTube. C'est très codifié comme format. Un court générique, une scénette de 5 secondes qui présente les faits, le titre de l'épisode qui forme avec le générique une phrase interrogative, la partie centrale et le maintenant, oui, qui clôt l'épisode. C'était un moment qui ne demandait pas beaucoup de réflexion. On trouvait ça sympa, on passait à autre chose. Au mieux, on en parlait le lendemain à la machine à café ou à la cour de récré. T'as vu, avez-vous déjà vu hier à la télé? Oui, oui, j'ai vu, c'était sympa, hein, oui. Et la discussion se terminait là. Le savez-vous, on peut aussi regarder la Pentecôte comme un épisode d'Avez-vous déjà vu? J'ai pas fait le montage pour des raisons évidentes de talent, mais on peut reprendre, on reprend les bases. Un court générique, la rencontre des croyants, une scénette de 5 secondes qui présente les faits, la venue de l'Esprit-Saint avec des langues de feu, le titre de l'épisode, avez-vous déjà vu le moment de la Pentecôte, la partie centrale, on voit les langues qui arrivent sur les personnes, ils parlent dans toutes les langues, maintenant, oui. Et là, deux types de personnes face à cette scène tout de même extraordinaire, encore plus extraordinaire qu'un boys band de poussins. Face à cette scène, les versets 12 et 13, ils étaient tous remplis de stupeur et ne savaient plus que penser. Ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient en disant « Ils sont complètement ivres. » Deux types de personnes. Celles qui s'interrogent « Qu'est-ce qui se passe ?» et celles qui savent « Ils sont complètement sous. » Celles qui s'interrogent sur le comment, du pourquoi de cet événement extraordinaire et ceux qui passent déjà à autre chose parce qu'ils ont trouvé une réponse qui leur convient parfaitement. Il y a des langues de feu qui tombent du ciel, ils parlent dans des langues qu'ils n'ont jamais pu apprendre, c'est l'effet de l'alcool. Alors je ne sais pas pour vous, moi quand j'ai bu un peu d'alcool, je ne deviens pas polyglotte avec des langues de feu qui me tombent dessus, mais peut-être qu'on ne boit pas la même chose en région parisienne. Il y a ceux qui se laissent interroger par ce moment. Il y a ceux qui se laissent intriguer et qui n'acceptent pas que c'est une scène très courte. Et il y a ceux qui trouvent une réponse qui apparemment leur convient. Avez-vous déjà lu le récit de la Pentecôte? J'ai calculé pour vous, à mon rythme de lecture, c'est très exactement 1 minute et 23 secondes pour lire le passage qu'on a lu ensemble, à voix haute. 2 épisodes d'Avez-vous déjà vu ? Maintenant, les avez-vous déjà vus, ça va être une unité de mesure, vous saurez. 2 épisodes. Et on peut passer à autre chose. Avez-vous déjà lu le récit de la Pentecôte ? Oui, chaque année, le dimanche de la Pentecôte, je passe très précisément 1 minute 30 à lire le texte et après je passe à la lecture du jour d'après. Avez-vous déjà entendu Benjamin prêcher ? Maintenant, oui. Vous pouvez prendre sa prédication comme 10 minutes dans la semaine, dans votre année. 10 minutes où vous avez trouvé ça sympathique, c'est vrai qu'ils sont chouettes les nouveaux pasteurs, et passer au reste de votre vie. Vous pouvez lire le récit de la Pentecôte pendant 1 minute 30, vous dire vraiment, il est extraordinaire ce Dieu, il fait les choses bien, hein. Visuellement c'est attractif, on ne sait jamais trop qu'est-ce qui va se passer, c'est sympa, et passer au reste de votre vie. Vous avez le droit. Mais je ne suis pas sûre que c'est sous ce format que Dieu voulait qu'on vive la Pentecôte. De un, ce n'était pas le format qui était souhaité pour les personnes qui l'ont vécu. Les personnes qui ont entendu parler des merveilles de Dieu dans leur langue natale, ce n'était pas pour amuser la galerie. Alors oui, c'est impressionnant. Mais il y avait plus qui était derrière. Il y avait le souhait de parler de Dieu, de montrer aux gens qu'il y avait Dieu, personne trinitaire, 3 personnes, un Dieu, excusez-moi, qui tenait à eux, qui voulait leur parler dans leur langue maternelle, la langue du cœur, pour leur exprimer à quel point c'était un Dieu extraordinaire. Ce n'était pas juste un moment sympathique, un moment impressionnant, comme on irait au cirque ou écouter Alain Chabat pour qu'il nous fasse rire. C'était un moment qui se voulait un temps historique, à la fois pour toute l'histoire de l'Église et pour les personnes qui ont vécu ce temps. Une invitation à un changement radical dans leur vie. Et ça, c'était la volonté pour les personnes qui l'ont vécu, mais c'est aussi la volonté pour toutes les personnes qui ont lu ce passage depuis, qui ont reçu ce récit de la Pentecôte. Vous avez le choix. Soit vous vivez ce moment de don de la Trinité comme une anecdote au visuel impressionnante, soit vous le vivez comme un des 2 temps les plus importants de l'histoire de l'humanité, qui va vous interroger à jamais. Je répète parce que c'est important. Soit vous vivez ce moment de don de la Trinité comme une anecdote au visuel impressionnant, soit vous le vivez comme un des 2 temps les plus importants de l'histoire de l'humanité, qui va vous interroger à jamais. Soit vous vivez le temps du récit de la Pentecôte comme un truc sympa qu'on raconte à l'école du dimanche et qu'on lit une fois par année, soit vous acceptez que ce moment historique et aussi personnel est un moment qui va vous chambouler pour tout le restant de votre vie. Le don de l'Esprit de Dieu nous a été offert au jour de la Pentecôte comme tous les jours depuis. Nous avons eu des cadeaux, comme cadeau la présence de la 3e personne de la Trinité, une ligne directe avec le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes par sa présence intégrés dans la nouvelle création, des filles et des fils du Très-Haut, unis par ce même Esprit et nourris par la présence divine. Un don encore plus précieux que la présence physique du Christ lui-même, et c'est lui qui le dit. Un temps historique, prophétisé depuis des millénaires, le don du nouveau temps qu'est le corps de l'Église. C'est impressionnant. Le vent et le feu reliés à l'Ancien Testament, reliant le passé et l'avenir du peuple de Dieu, une unification historique d'Israël sous la houlette du roi messianique qui nous envoie l'Esprit divin pour cela. C'est un moment monumental. Et on ne va pas pouvoir tout expliquer en une prédication, tout expliquer en une vie, ce serait compliqué. C'est un moment qui se doit être interrogeant pour nous. On ne peut pas clore le chapitre en disant « Maintenant j'ai reçu l'Esprit, maintenant oui, maintenant j'ai lu ce passage, c'est ok. » Peut-être que vous avez été choqué que je montre un « Avez-vous déjà vu en Église ?» et je comprends. Mais qu'est-ce qui est le plus choquant ? Un « Avez-vous déjà vu à l'Église ?» ou une fois vécu comme un épisode de 45 secondes par jour, où on vient 45 secondes par jour devant Dieu, merci pour tout ce que tu as fait, et on part sans aucun incident sur notre vie. Face au moment historique de la Pentecôte, nous devons accepter d'être dérangés par notre relation à Dieu et notre relation au reste du corps de l'Église. Et cela demande un changement radical de notre part. Est-ce que c'est suffisant de donner 0,0502% à Dieu chaque jour ? C'est l'équivalent, si vous regardez un épisode d'Avez-vous déjà vu par jour, c'est ce pourcentage de votre journée que vous passeriez devant votre écran. C'est pas assez pour Dieu. 10%, c'est pas assez pour Dieu. 20, 30, 40%, c'est pas assez pour Dieu. Alors vous allez me dire, moi j'ai pas envie d'être pasteur, et très bien, vous avez le droit. On ne sert pas à 100% Dieu que quand on est salarié pour servir à 100% Dieu. Dieu a besoin d'un peuple rempli de l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a besoin de maris qui aiment leurs femmes, de femmes qui aiment leurs maris, de parents qui aiment leurs enfants et d'enfants qui aiment leurs parents, de voisins qui aiment leurs voisins, de personnes qui aiment faire leur travail. Il a besoin d'enseignants qui enseignent et de soigneurs qui soignent. Il a besoin d'amis qui encouragent. Il a besoin d'un peuple comme il l'a voulu. Un peuple uni dans ses différences, un peuple qui met ses forces au service de l'autre, un peuple qui parle plusieurs langues, mais qui, malgré ses différences, se renforce par la diversité du corps du Christ. Nous ne pouvons rien donner de moins que 100% à Dieu. Et ça veut dire rester, interroger toute sa vie, à chercher encore et encore la réponse appropriée à un appel aussi monumental qu'est celui de la Pentecôte. Dieu appelle et qualifie son Église par le don de son Esprit. À nous la responsabilité de répondre à cet événement historique capital. La Pentecôte, aussi rapide et impressionnante soit-elle, ne peut pas être comparée à un divertissement ou à un épisode marginal et amusant. C'est un temps historique, élément visible de l'ancienne alliance laissant place à la nouvelle alliance, prenant racine dans tout l'Ancien Testament pour éclore en triomphe par la révélation trinitaire dans son entièreté, rien que ça. Un instant rapide, oui, mais qui se doit de résonner à jamais dans l'histoire de l'Église et dans nos cœurs. Nous mettons-nous du côté des sachants, ils sont sous, ou des interrogés. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il pour que la Pentecôte, pour que le Dieu créateur, pour que le don du Dieu trinitaire vienne me voir et me concerne ? Oui, maintenant j'ai vu. Oui, maintenant je sais. Ou acceptons-nous de rechercher toute notre vie la réponse à donner face à cet événement capital ? S'il y a bien un jour par année, un temps liturgique, une lecture où il faudrait accepter de se laisser déranger par le divin, c'est décidément bien le jour de la Pentecôte. Prions. Seigneur Dieu, merci. Merci pour le don de ton esprit. Ce temps historique qui s'est passé il y a presque 2 millénaires et depuis ce jour, l'esprit qui est avec nous, avec ton Église. Seigneur, aide-nous à faire corps avec nos frères et sœurs. Aide-nous à voir notre diversité comme une force à mettre au service des membres de ton Église. Aide-nous à vivre ce don de l'Esprit comme une responsabilité à répondre chaque jour à cet appel que tu nous envoies. Seigneur, guide-nous, aide-nous à être dérangés par ta présence, aide-nous à toujours te suivre et à ne jamais rester dans un confort sans se poser la question « Qui es-tu, Seigneur, et que veux-tu pour moi ?» Seigneur, merci pour ton grand amour, merci pour toutes les choses que tu nous donnes chaque jour. Guide-nous, jour après jour, pas après pas, à faire corps avec ton Église. Dans le nom de Jésus, nous te prions.